Bonjour à tous. À chaque fois que je suis devant ici, je suis un peu tremblant. J'ai prié. Père éternel, bien-aimé, merci vraiment pour ta parole. Ta parole nous purifie, nous sanctifie, nous corrige, nous réconforte. Je te remets aujourd'hui ma prédication, Père. Merci d'être avec moi tout le long de pendant la délivrance de tout le message, Seigneur, que tu m'utilises vraiment pour nous encourager les uns les autres, Seigneur, que moi qui parle et les frères et sœurs qui écoutent, nous puissions vraiment être réconfortés, encouragés, corrigés par ta parole, Seigneur, par la vérité qui vient de vraiment de cet livre saint, et que nous puissions mettre en pratique, Seigneur, cette parole pour que l'Église de Saint-Maur puisse vraiment rentrer dans la marche d'une église de bonne santé, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Je vais lire encore une fois avec vous pour que vous impreniez le passage. Je pense que ce n'est pas un passage qui est très connu par tout le monde. Je vous invite de lire avec moi, comme ça vous pouvez vraiment suivre après le message. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons plus trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et ce qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Voilà, ici, il s'agit du tribunal. Je crois que personne n'aime bien aller au tribunal, hein. L'aigle, est-ce que vous avez déjà vu des aigles, surtout l'aigle royal? L'aigle, par sa noblesse, sa force, sa vision, son envergure. J'ai regardé l'aigle royal, quand il ouvre ses ailes, ça peut aller jusqu'à 2,27 m. Je ne sais pas si c'est la taille d'une voiture, la largeur de la voiture. En tout cas, ce sont les qualités qui démarquent de tous les oiseaux. Il est donc considéré comme des oiseaux, le roi des oiseaux. Et la Bible compare le croyant à l'aigle. Dans Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leurs envols comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. » Voilà. Donc, le croyant qui mène une vie comme l'aigle, c'est celui qui cherche à plaire au Seigneur. Il prend la hauteur, il prend son envol pour ne pas être séduit par des choses, les richesses de la terre. Il regarde vers le ciel où est assis Jésus-Christ à la droite du Père. Il recherche les choses en haut. Comme vous avez chanté tout à l'heure, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Il investit son temps, son énergie, ses dons pour plaire à Dieu, pour glorifier le Seigneur. Par contre, le croyant qui est plutôt préoccupé par les choses de la terre, je le compare à des poules. Vous voyez les poules, ils cherchent toujours par terre, ils cherchent à picorer les grains. Voilà, donc le chrétien qui ne préoccupe pas des choses d'en haut, des choses spirituelles, des choses célestes, alors qu'il est appelé à être comme l'aigle, bah, il préfère vivre une vie comme une poule qui ne sait pas très bien voler et voilà, qui cherche, qui est toujours préoccupé par les choses terrestres. Et dans ce passage, j'en ai tiré 3 points. Voilà, vous voyez l'aigle. Hein? Super, hein? Alors, ce que Dieu nous donne, premier point. Deuxième point, ce que Dieu attend de nous. Troisième point, ce que nous, Dieu fera à son retour, au retour de Jésus-Christ. Ce que Dieu nous donne. Dans ce passage, Paul nous dit que Dieu nous donne son esprit, le Saint-Esprit, dans le verset 5. Et c'est bien ce que Jésus a déjà enseigné à ses disciples. Quand vous lisez Jean chapitre 14, 15, 16, il parlait le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité de Dieu. Parce que le plan de salut, que Dieu le Père, c'est lui qui a prévoit le plan, le projet. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ unique, pour accomplir la mission, mourir à la croix pour nous, pour notre péché, pour satisfaire pleinement la justice de Dieu et apaiser la colère de Dieu envers nous, les pécheurs, les ennemis de Dieu. Mais comme Jésus sait qu'il va aller à la croix, mourir, ensuite ressusciter le troisième jour, après monter au ciel, il réconforte ses disciples en leur disant « C'est mieux pour moi de partir. Quand je pars, je prierai le Père. Il vous envoie le Saint-Esprit. » Et c'est bien ce que Paul dit ici. Dieu nous donne son esprit. Et le Saint-Esprit assure toute la mission que Jésus, une fois que Jésus est parti. Le Saint-Esprit habite dans le cœur de chacun de nous. C'est lui qui nous convainc du péché. Sans l'action du Saint-Esprit, on ne peut pas reconnaître que nous sommes pécheurs. Il nous conduit dans la vérité et nous rend aptes à vivre une vie qui plaît à Dieu, à aimer Dieu. En gros, il nous aide à dans la progression de la sainteté. Et ici, dans le verset 5, Paul dit que Dieu nous donne son esprit comme un acompte des biens à venir. Dans le Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit, nous sommes ressuscités spirituellement. Nous avons une nouvelle naissance, nous avons une nouvelle vie. Le verset plus loin, Paul dit, si quelqu'un est uni en Christ, il est une nouvelle créature. Les biens à venir, c'est ce que Paul a dit dans le premier verset, jusqu'à verset 3 que nous avons lu tout à l'heure. Paul y compare notre corps physique comme une tente qui va se détruire. Et c'est vrai que Paul est très bien placé pour parler la tente, puisqu'il tisse les tentes. Et là, Paul, quand il parle de ça, il est tout excité et tout. Il dit que la tente, notre corps, c'est une habitation terrestre. Alors que ce que Dieu nous a préparé, quand au retour de Jésus, ça sera notre corps de résurrection et ça sera un corps spirituel, un corps immortel, incorruptible et glorieux. C'est pour cela que Paul, il dit, il a hâte d'y aller auprès du Seigneur et d'être revêtu de ce corps. Voilà. Après tout ça, donc Paul rappelle dans Éphésiens 2, j'aime très bien, je veux beaucoup ces quelques versets. Je vous invite à en lire avec moi ceux qui veulent le faire. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà, c'est un verset, des versets que je vous conseille vraiment de retenir par cœur. Quand vous êtes déprimé, vous récitez ces versets. C'est un antidépresseur puissant. Et vous pouvez l'avoir à tous les moments. Pas besoin d'aller courir chez le médecin ni à la pharmacie. Voilà, donc vraiment, souvenons-nous que nous sommes vraiment sauvés par grâce. Grâce, c'est une faveur imméritée. Moi et vous, nous étions des ennemis de Dieu, adversaires de Dieu. Et Paul l'a écrit dans Romains 5, il dit que alors que nous étions ses ennemis, Christ est mort pour nous. C'est là que Dieu nous montre son grand amour. Voilà ce que Dieu nous donne. Voyons ensemble ce que Dieu attend de nous. Donc, là, Paul l'a très clairement dit dans le verset 9. Nous nous efforçons de plaire au Seigneur. Efforçons-nous de plaire au Seigneur. C'est le but suprême de la vie de l'apôtre Paul. Et ça devrait aussi le but suprême de moi, de toi, de tous les chrétiens, tous les croyants, y compris ceux de sa mort. Comme dit pasteur la semaine dernière, il n'y a pas de oui, mais c'est tous. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi? Pourquoi? Une question à tous ceux qui sont déjà parents. Je pense qu'il y en a pas mal quand même. Nous, quand nous sommes des bons parents, nous prenons soin de nos enfants. Et les enfants se sentant aimés, ils nous obéissent. Ils cherchent à nous plaire pour nous faire, pour chercher à nous plaire. Vous êtes d'accord, les parents, là? Mais c'est vrai, ils n'obéissent pas tout le temps. Mais c'est comme nous, avec le Père Céleste. Nous ne pouvons pas, nous n'arrivons pas à lui plaire tout le temps. Et c'est pour cela qu'il nous corrige. C'est pareil. Les bons parents corrigent ses enfants. S'ils ne corrigent pas les enfants, ils savent pas que c'est mauvais. Si un enfant mentir quoi. Donc si le parent ne reprend pas, après il pense que c'est normal, il va mentir encore de plus en plus. Par exemple, un enfant qui vole, pareil. Si on ne lui dit pas, il va continuer. Plus tard, ça sera un brigand si le parent ne le repène pas. Voilà, c'est ce que Dieu fait avec nous. Nous, on le fait pour notre enfants parce qu'on les aime. Et Dieu, le Père, il connaît mieux nous que nos enfants, nous connaissons nos enfants. Donc, il nous corrige, même quand Dieu nous corrige, frères et sœurs, remercions-le parce que c'est vraiment pour notre bien. Et même dans Hébreux, ils disent que si Dieu ne corrige pas, il faut nous inquiéter parce que nous ne serons pas les enfants de Dieu, mais ça, nous serons des bâtards. Voilà, c'est vraiment pour moi, quand j'y pense. Dieu n'a pas voulu que Abraham sacrifie son fils unique pour lui. Mais lui, il n'a pas hésité de sacrifier son fils unique, Jésus-Christ, pour moi, pour toi, que Jésus aille souffrir déjà à la croix avec des épines. Couronne de épines, mettez-vous des couronnes en épines. Combien de temps qu'on va durer, nous? Moi, j'essaye souvent d'imaginer la douleur que Christ endure à la croix. À chaque fois que je vais chez le dentiste, quand le dentiste me fraise la dent, mais je remercie la dentiste parce qu'elle m'a anesthésié. S'il ne m'anesthésiait pas, comment je vais pas rester comme ça, ouvrir ma bouche. Voilà, je me suis dit qu'à chaque fois, je pense à Jésus qui est en train de subir la crucifixion. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pour nous, hein, c'est vraiment aimer. Voilà, le pourquoi je vous réponds, c'est parce que Dieu nous a. Vous connaissez tous Jean 3,16. Vous voulez tous réciter ou pas? Oui, allons-y. Dieu a tant aimé le monde, donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. C'est super. Voilà. Mais Anne-Marie n'est pas là, mais parce qu'elle m'a dit, elle ne veut pas que je dis des versets sans afficher. Donc, j'ai obéi. Mais là, elle n'est pas là aujourd'hui. Bon, vous voyez, c'est vraiment le pourquoi on doit plaire à Dieu. D'abord, vraiment, c'est en réponse à son amour, si grand, si merveilleux. Et John Newton, l'auteur de Amazing Grace, il a vraiment expérimenté cet amour. Hein. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est impossible de ne pas aimer Dieu après avoir obtenu le salut, après avoir goûté à cette grâce. Donc, c'est impossible. Alors, comment? Alors, Paul a dit, et nous efforçons. Il n'a pas écrit, nous essayons. Efforcer, c'est quoi? C'est chercher? Faire tous les efforts. Mais Paul, quand il parle, il fait tout, hein, Paul, hein. Il fonce, hein. Voilà. Faire tous les efforts. Et faire tous les efforts pour plaire au Seigneur. Et ça me fait penser au premier commandement de Seigneur Jésus-Christ. Aimer Dieu de tout mon cœur, de tout notre cœur, de notre pensée, notre âme et notre force. Ça y est en même. Hein? Efforçant de plaire au Seigneur et aimer Dieu de tout notre cœur. Donc, Paul, quand il dit quelque chose, c'est vraiment tout notre être entier. Voilà. Première chose, c'est vraiment, efforcer. Donc, c'est demeurer en Christ, attaché à Jésus-Christ. Jésus l'a dit dans Jean, chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, Jésus, nous ne pouvons rien faire. » Donc, demeurez en Jésus-Christ, sinon nous sommes foutus, on ne peut rien faire pour plaire au Seigneur. Deuxième chose, c'est regarder à Christ comme l'aigle royal, regarder au ciel, prend l'envol, prend la hauteur. Ne pas regarder comme des poules par terre, être attiré par les richesses de la terre. Alors, demeurer en Jésus-Christ, concrètement, c'est lire la Bible, bien vraiment méditer, prier, avoir des temps de silence. Troisièmement, c'est partager nos vécus, les échecs, les victoires avec des frères et sœurs pour s'encourager, pour montrer... Il faut pas partager que des victoires, parce que sinon il va dire que t'as que des victoires. En fait, des échecs, ça aide, parce que pour dire que chacun est défaillant, chacun est faible. Voilà. Bah, je vais vous partager, moi, pendant ma conversion, j'étais baptisée en 2004, au mois de mai, et je lisais la Bible, j'étais touchée par le Seigneur. Et ensuite, je suis allée voir un pasteur qui est dans une église réformée à Noisiel. Au bout de 4 mois, il m'a dit, puisque tu crois au Seigneur, tu vas se faire baptiser. J'ai dit à pasteur, non, attends un peu, je vais réfléchir. Mais finalement, quand je l'ai dit comme ça, parce que j'avais posé deux conditions à Jésus à cette époque-là. Première condition, parce que j'ai fermé mon cabinet à Forbach en 2003 et je suis venue à Logne, j'ai ouvert mon cabinet à Logne. Et pendant les 3-4 mois, j'avais 2 à 5 malades par jour. Donc j'ai dit au Seigneur, première condition, je me baptiserai quand tu me donneras 20 malades par jour. Deuxième condition, à l'époque, j'habitais au nord-est de la France, donc à Forbach, à Kerbach, on va dire. Clément peut... Nous avons une grande maison qui fait 200 mètres carrés. Et là, je me retrouve à Logne dans un appartement de 80 mètres carrés. Donc, je dis, Seigneur, c'est trop petit pour moi. Deuxième condition, Seigneur, je me baptiserai quand tu m'aides à acheter une maison. Voilà, c'est mes deux conditions. Bon, heureusement pour moi, au bout de quelques semaines, je crois que c'est le Saint-Esprit qui me dit... si t'as pas de malade, si t'as pas de maison, tu baptises quand? Ah oui, c'est vrai. Voilà, vous voyez, j'étais, voilà. Donc après, je suis allée voir le pasteur, j'ai dit d'accord, je me baptise. Vous voyez, des fois, Seigneur, il permet des choses, mais voilà, voilà. Et puis, voilà. Alors, pour plaire au Seigneur, c'est là où Paul a dit dans le verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pareil. Par la foi, dans Hébreux 11, verset 1, vous connaissez par cœur? La foi, c'est la démonstration de ce qu'on croit et la vision des choses qu'on ne voit pas. Bon. D'accord? Donc, c'est toujours pareil, chercher des choses invisibles qui durent éternellement. C'est comme Jésus l'a dit, travailler non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure jusqu'à dans la vie éternelle. C'est dans Jean 6. De penser à mettre un compte dans le ciel. Donc, désolé, Michael, c'est pas dans la banque où tu travailles hein, que je vais m'investir. Je préfère investir chez Seigneur Jésus. Ça apporte beaucoup plus de. Il y a pas d'intérêt quoi, c'est le triple, l'éternité, voilà. Donc, et puis plaire au Seigneur. Pareil, je reviens aux parents. Surtout les parents qui ont les enfants déjà mariés, quitté la maison, on aimerait bien quand ils reviennent nous voir. Ben, je suis contente quand Clément revienne me voir. Je pense que les autres parents sont pareils. Laurent, il est à Clermont-Ferrand, je le vois tous les 2 mois, tous les mois, donc je suis contente quand ils reviennent. Dans le Père Céleste, c'est pareil. Il est content quand toi, quand moi, on prend le temps chaque jour pour s'asseoir auprès de lui, lire la Bible, prier ou dans le silence. Ça, c'est ça lui plaît au Père, sûr et certain. Voilà. Donc, vous voyez, ils attendent que ça, le Père, que tu y vas. Et en plus, tu peux y aller 24 heures sur 24. Quand tu téléphones, ça peut être surbooké ou je sais pas quoi, mais le Père, la ligne marche. Il y a pas de, c'est illimité et il dans le temps et dans voilà, voilà. Donc vraiment, penser à investir notre temps, notre énergie et nos dons pour lui plaire. Et Dieu est bon, hein. Il nous demande pas l'impossible. Quand il nous demande de plaire à lui, il nous donne le pouvoir et le faire. Le vouloir. On est dans Philippiens 2, verset 13. En effet, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Tout ce qu'il nous demande, c'est notre obéissance. Mais est-ce que vous savez que le verbe aimer dans la Bible égale à quoi? Obéir. D'accord? Aimer Dieu égale obéir à Dieu et à ses commandements. Je vous donne... Pourquoi il n'y a pas? Normalement, il y a... oui. D'accord. Donc, aimer, c'est dans... Jésus l'a dit, si vous m'aimez, vous respectez mes commandements. C'est dans Jean 14, verset 16. Je ne sais pas, j'ai dû faire des erreurs dans les PowerPoints. Voilà. Donc, il n'y a vraiment pas d'excuses, hein. Tu peux pas dire à Dieu, je n'ai pas de temps, je suis trop fatiguée. Quand je termine mes révisions, je suis en examen. Quand je termine mes études, ou bien il y en a un autre qui dit quand je serai à la retraite. Ça, c'est des excuses que Dieu ne va pas agréer. Quand tu seras face à face avec Jésus-Christ devant le tribunal, c'est pas, il reçoit pas, c'est du non reçu. Voilà. Ça, c'est le, alors, ce que nous on voit ensemble, ce que Dieu fera à son retour. C'est sérieux, hein? En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Oui, parce que Paul parle dans le verset 1 et parlait de notre corps, la tente qui va se détruire. Donc ici, vraiment, il a dit cela, c'est pour les chrétiens de Corinthe, mais c'est un verset qui est intemporel, c'est pour tous les temps, pour les croyants de tous les temps. Donc, voilà. Jésus l'a dit aussi, hein. Matthieu 16, 27. En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Vous voyez? Nos actes, ça ne paraît pas anodin. Pendant notre séjour sur la terre, après la conversion, Dieu tient compte. Ce passage parle des actes que chaque croyant aura fait pendant son séjour terrestre. Ici, les péchés ne sont pas pris en compte parce que leur jugement a déjà eu lieu à la croix. Donc là, on sera sauvé, hein, si vous faites rien. Paul l'a dit, hein, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Il s'agit là, quand Paul parle, Jésus va juger nos actes, c'est des activités, des occupations. Pendant tout le temps, nous sommes encore dans notre corps temporel. Ce sont des activités en relation avec la récompense éternelle et l'approbation de Dieu. C'est pour ça que souvent, quand Jésus prêchait, enseignait, il dit toujours, ne pas chercher l'approbation des hommes. Cherche avant tout l'approbation de Dieu. Vous vous souvenez un peu, comme il disait, quand vous priez, fermez la porte, priez tout seul, le Père dans le ciel le sait, quand tu donnes les offrandes, c'est pareil. Tout ce qu'on fait, il n'y a pas besoin de faire comme les pharisiens, taper sur la... pour crier, oui, je donne un don là, combien là, plus que toi, et je fais des choses plus que toi. Non, on le fait dans le... Dieu le sait. Et c'est vrai, ça, je le sais, mais des fois, j'ai du mal à l'intégrer pour moi. Parfois, quand j'ai rendu service, je pense avant, quand j'étais médecin, j'ai rendu des grands services à un ou une telle malade, et après, je suis vraiment attristée parce que je me suis dit, celle-là, elle n'est pas reconnaissante. L'autre n'est pas reconnaissant. Une fois, j'ai vu un chrétien que je devais fermer mon cabinet. Il est arrivé, mon cousin m'a dit, il est gravement malade, je l'ai pris. Et c'est vrai, il était gravement malade. Il était rouge partout, 42 fièvres. Il a eu mal à respirer. Et moi, je supportais la rougeole. Et j'avais raison, c'était la rougeole. Et je lui ai dit, il faut tailler vitesse aux urgences. Il m'a dit, il n'a pas de voiture. Du coup, c'est moi, le docteur, qui l'amène aux urgences. Vous voyez? Après tout, c'est un chrétien, hein, soi-disant chrétien. Je sais pas. Après tout ça, aucun coup de fil, aucune lettre de remerciement. Ni vu, ni connu. Voilà. Vous voyez? Là, ça me restait comme ça pendant longtemps. Quand j'y pense, je me suis dit, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon essence, bien plus tout ça. Et lui, il n'y a rien, quoi. Voilà. Mais je sais, après je dis à Dieu, tu le sais. Tu l'as noté. J'ai un compte là-haut. Voilà. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, vous le savez que Paul nous a dit, et je vous le rappelle. Nous tous devrons rendre compte à Dieu sur de notre manière de vivre le jour du jugement. Si nous vivons une vie en efforçant de plaire au Seigneur, nous recevons une récompense. Et Paul l'a très bien détaillé dans 1 Corinthiens 3, du verset 11 jusqu'à 14. Je vous encourage de lire ensemble, comme ça vous allez bien retenir. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Voilà, c'est à vous de choisir. Si vous voulez que l'œuvre subsiste, de recevoir une récompense, ou plutôt seulement perdra la récompense et rougit de honte devant le Seigneur. Voilà. Nous avons vu ensemble ce que Dieu, frères et sœurs, bien-aimés, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Dieu nous a appelés, nous a choisis, il nous a mis à part. C'est lui qui nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils Jésus-Christ. Voilà, il fait tout ça pour qu'on puisse en vivre une vie comme l'aigle, ne vivant pas comme les poules. Prenons vraiment un temps, même chaque jour, méditer l'Évangile, méditer ce que Christ a fait pour chacun de nous. Et puis, prenons conscience de ce que nous avons lu tout à l'heure. Un jour, nous verrons le Seigneur face à face. Il va te dire, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tout ce que j'ai fait pour toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? J'accuse personne, hein, je le prends pour moi aussi. Donc vraiment, c'est vraiment, voilà, que vraiment la connaissance de cette vérité, que nous avons un compte à rendre au Seigneur, chacun. Si nous ne faisons pas pendant que nous sommes encore vivants, une fois morts, il n'y a pas de rattrapage. Pour les examens, on a des rattrapages pour beaucoup de choses. Mais là, avec le Seigneur, une seule vie, le temps qu'on vit dans notre tente. Voilà, donc vraiment, que la connaissance de la vérité, c'est ma prière, nous motive, moi et toi, à aimer Dieu plus que toute autre chose de ce monde. Et que nous nous efforçons vraiment de mener une vie pour plaire à Dieu, afin que le jour du Seigneur, le Seigneur nous dit, toi, fidèle serviteur, viens ici chercher ta récompense. Sinon, on va rougir de honte, et puis voilà, quoi, c'est, voilà, donc c'est pour cela que vraiment, pour commencer la nouvelle année, que chacun vraiment puisse, pareil, partager les échecs et la victoire pour que s'encourager les uns les autres. J'ai une petite anecdote. Hier, j'ai fait les courses avec Clément au Picard. J'ai payé à la caisse avec un billet de 50 euros. Et en fait, la caissière s'est trompée et m'a rendu trop, beaucoup, un peu plus. Elle devait me rendre 25 euros, elle m'a rendu 30 euros. Et je regardais mes trois billets, je suis en train de calculer, je me suis dit, elle s'est trompée. Je suis allée la voir, elle a eu peur, elle croyait que c'était autre chose. Mais je lui ai dit que je vous ai donné que 1,30 € et vous m'a rendu trop. Et là, elle était complètement, vraiment contente. Elle n'arrête pas de nous dire merci, merci et tout, donc vous voyez. Je peux ne pas retourner, mais j'ai vu que je ne veux pas que ça soit à mon bénéfice. Voilà, c'est des petites choses, mais voilà. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour le salut que tu accordes à chacun de nous au moyen de la foi. C'est aussi un don de ta part, Seigneur. Tu es vraiment le Dieu d'amour et Dieu de grâce, Seigneur. Merci vraiment de nous avoir donné, laissé ta parole, Seigneur. Cette parole qui nous rappelle que nous devons être responsables de la vie que tu nous donnes, Seigneur. Vraiment, je te prie pour que tu nous motives, moi et les frères et sœurs, pour démarrer cette nouvelle année, Seigneur. D'efforcer vraiment d'avoir une vie qui te plaire, Seigneur, qui te rend, qui te glorifie, Seigneur, pour que quand nous te verrons face à face, Seigneur, nous n'avons pas à rougir et nous pouvons entendre ta voix de nous dire que tu nous aimes bien, tu nous acceptes vraiment et tu nous donnes une récompense, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.